t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, la Léviron de Fonctuera von der Radio Jivigets. Wir sind wieder da miteinander mit unserer Sendung Mormir à Platzle. Assez souvent, je commence à vous parler dans le poste avec ma quelques mots avec, en alsacien, en vous saluant avec ma Muttersprache. Bien le bonjour, par cette belle journée automnale, nous sommes déjà tout début octobre et octobre est un tendre adieu à l'été, un baiser doré avant l'hiver. Soyons un peu romantiques ce matin, chaque semaine, un de mes invités y débose quelques lignes de sa vie, un éclat de bonheur, une ombre légère ou un souvenir à faire frissonner vos oreilles. Et ce matin, j'ai invité Frédéric, un artisan du bonheur simple, un écupérien. Il est le bras droit du proviseur du lycée hôtelier Alexandre Dumas à Illkirch, où l'on forme aux différents métiers de la bouche, alliant savoir-faire, rigueur et passion culinaire. Bonjour invité surprise, très heureux de t'accueillir à Radio J. Frédéric, tu peux te présenter s'il te plaît?
Bonjour André, bonjour aux auditeurs. Oui, donc je suis Frédéric Lachenam, je suis fils de restaurateur et conseiller du proviseur sur tout l'enseignement professionnel au lycée Alexandre Dumas à Illkirch.
Tu n'es pas son bras droit, pardon?
Non, je ne suis pas son bras droit. Je fais partie de l'équipe de direction. Le bras droit du proviseur, c'est les deux proviseurs adjoints qui sont au lycée.
D'accord. En tout cas, tu es enseignant, on en parlera un peu plus tard. Parle-moi un peu de cet été. Tu as passé un bel été, juillet-août, c'était sympa.
Alors, l'été est toujours sympathique. On a profité pour partir en Toscane en famille.
Oh, c'est beau la Toscane.
Et c'est très très beau. Et
l'huile d'olive, gâche tout rien. Ça, les petits vins, tout ça, c'est sympa. Ouais.
Exactement, on a découvert plusieurs fabricants d'huile d'olive. On a dégusté les vins italiens. Et on a surtout aussi profité des spécialités italiennes.
Culinaires, voilà.
Il va sans dire qu'on a pris quelques kilos, mais c'est
oui,
pas
mais
grave.
Ça se voit pas. Hein. Tu fais du sport, donc c'est pas gênant. Et alors, il y a quand même des bons côtés. T'es enseignant, 2 mois de vacances, c'est sympa quand même, non?
Oui, alors c'est de cette manière-là qu'on taquine souvent les enseignants. Dans l'esprit des gens, on a 2 mois de vacances, mais dans la fonction que j'occupe, on finit souvent vers le 14 juillet et on recommence juste après le 15 août. Donc on a un gros mois de vacances.
Un gros mois de vacances où tu peux te changer les idées et tout. Après, c'est vrai, enseignant est un métier difficile, un peu ingrat, mais profondément essentiel et porteur d'avenir.
Alors oui, c'est un métier enrichissant avec une charge mentale importante. Mais effectivement, on forme les citoyens de demain, je dirais que c'est presque notre principale mission. Et en ce sens, oui, on est porteur d'avenir, enfin en tous les cas, je l'espère.
On peut dire ça, ouais, voilà. Je rétablis un petit peu la vérité, hein, parce que quand je t'ai taquiné avec les vacances, c'est vrai que vous avez quand même un rôle essentiel. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu enseignais au lycée hôtelier, la cuisine, la sommellerie, la pâtisserie?
Alors, j'ai une formation assez complète puisque une grande partie de ma formation, je l'ai faite en cuisine. Je me suis spécialisé ensuite en service en salle. J'ai enseigné pendant 15 ans et aujourd'hui, j'enseigne plus. Mais comme dit, je fais partie de l'équipe de direction et dans ce sens, j'organise le fonctionnement des ateliers de cuisine, de restaurants et d'hébergement. Et je valide également toutes les progressions pédagogiques. Tout ça, bien évidemment, sous couvert du chef d'établissement.
D'accord. Tu parlais à l'instant de service en salle. Ça veut dire quoi, le service en salle? Ça veut dire présenter les plats? Je sais que c'est devenu assez théâtral. Hein. C'est presque, quand on parle d'un plat, ils récitent un peu les plats, les ingrédients. Et c'est presque une pièce de théâtre quand les jeunes viennent à table dans les grands restaurants.
Alors, effectivement, j'ai envie de dire que déjà au départ, être à table, c'est un moment de partage et nous, on fait partie de ce partage-là. Il est important, effectivement, de satisfaire les besoins des clients. Pour cela, il faut les reconnaître et c'est aussi une partie de notre mission, c'est-à-dire que faire en sorte que le client trouve tout ce qu'il cherche, aussi bien dans l'assiette que dans l'ambiance du restaurant.
Alors je vois que c'est très respectueux, les gens ont souvent la main gauche derrière le dos, ils s'inclinent un peu comme à la japonaise quand t'es au Japon, c'est ce que vous leur apprenez en fait, d'être D'être un peu en retrait, d'être agréable avec les gens et...
Alors, je suis passionné de football et on dit toujours l'arbitre a été bon quand on ne l'a pas remarqué. Et j'ai envie de dire que le service a été bon quand on ne le remarque pas, mais qui satisfait le besoin du client et l'attente du client. Effectivement, le main dans le dos, c'est caricatural, mais en fait, il y a une histoire, c'est-à-dire que les esclaves mettaient ont demandé aux esclaves de mettre la main dans le dos pour ne pas empoisonner le maître.
Ah, ça, je ne savais pas. Tu m'apprends une chose, je ne savais pas. D'accord, ça vient de là, en fait.
Ça vient de cette tradition.
Et en fait, c'est très agréable de les entendre parler d'un plat, quand tu leur poses une question, comment il fait la sauce, ils savent y répondre.
Le principal est de faire rêver le client et effectivement de lui donner envie de consommer ce plat tout en faisant en sorte que la manière dont on le fait rêver, il le retrouve dans l'assiette.
Ok, bah écoute, on va se reposer un tout petit peu les oreilles. On va écouter un peu Véronique Sanson, une chanson que tu aimes bien. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir la petite musiquette.
Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre.
C'est une belle voix, hein, Véronique Sanson. C'est un message, c'est quoi le message qu'elle veut qu'est-ce qui te parle quand tu écoutes cette musique?
Alors effectivement, c'est une musique, une chanson que j'aime beaucoup, parce que c'est un message, je dirais, de tolérance, parce que on juge souvent, dans notre société actuelle, on juge souvent les gens sans les connaître. On a un jugement rapide, et les réseaux sociaux accentuent ça, alors que je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre l'autre, de le connaître, de le comprendre, et ça facilite beaucoup le vivre ensemble, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est beau ce que tu dis, j'ai bien fait de te faire venir, ça me touche ce que tu dis, c'est très agréable, ouais, franchement. Alors, on va un tout petit peu rembobiner un peu ta vie, Frédéric. Tu viens du Grand Nord alsacien, de Vigneux-sur-Moder, là où brille l'étoile polaire.
Oui, exactement, le plus beau village d'Alsace, bien sûr.
C'est vrai que c'est beau là-haut, c'est magnifique.
On est dans un écrin de nature, ouais. En fait, on se rend compte quand on n'y est pas
qu'on a besoin.
Il fait bon vivre et qu'on a besoin, ouais, de ce côté nature.
Ouais. Et là, aujourd'hui, début octobre, la forêt est flamboyante, les feuillus sont... C'est extraordinaire, quoi.
Elle change sa robe tous les jours, pratiquement. Et il faut en profiter, et c'est aussi un retour au calme, et c'est important.
Et tu as besoin d'aller dans ce calme, vers ce calme, une fois que tu enseignes ou que tu as des réunions, tu as besoin de t'évader un peu dans la forêt, te retrouver un peu de sérénité.
On a une charge mentale forte, et effectivement, se promener regarder la nature, les champignons en ce moment.
Ah ouais, tu les connais un peu?
Oui, je vais aux champignons, enfin je connais les classiques,
chanterelles,
girolles, bolets, voilà.
Et je crois que c'est une année à champignons. Hein.
Alors ça dépend, dans le nord de l'Alsace, il n'y en a pas trop, mais dans le sud, effectivement, il y a une belle pousse de champignons.
Dans l'Alsace du Sud, tu veux dire?
Oui, dans le Haut-Rhin.
Dans le Haut-Rhin.
Voilà, dans le nord, on attend encore que ça pousse fort, mais en tous les cas, dans les coins que je connais, moi.
D'accord. Alors, j'aimerais aussi savoir un petit peu, ton enfance était heureuse là-haut, dans le nord de l'Alsace, tu avais un terrain de jeu important, tu jouais aux cow-boys et aux indiens, ce genre de choses ou...
Alors bien sûr, comme tout le monde qui habite dans la nature, on faisait les cabanes avec les copains. Et oui, j'ai eu une enfance heureuse. Je travaillais aussi avec mes parents qui sont restaurateurs.
Ah, donc, à quel endroit? C'était où?
À Avignon, même.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, je partageais mes moments école, loisir et déjà un peu dans la profession.
C'était quoi en fait tes rêves d'enfant quand tu étais ton gamin? C'était quoi? Tu étais un bon élève à l'école? Tu étais un rêveur, un bosseur? Tu rêvais de quoi?
Alors, je rêvais de devenir footballeur. Bon, j'aime autant dire que ça n'a pas marché.
Professionnel?
Professionnel à l'époque, oui. Enfin, j'en rêvais.
Et tu jouais au foot quand tu étais de pupille à aujourd'hui, je crois. Hein.
Je joue depuis l'âge de 6 ans et j'espère arriver jusqu'à 60 ans.
Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
On va tout faire pour.
Ouais.
Effectivement, bon, ça c'était le rêve, mais on avait aussi beaucoup d'amis, on était dehors, on jouait dehors. Et surtout, dans ce côté transmission de valeurs, on était tous sur des valeurs importantes.
Et au foot, c'était quoi ton numéro? Qu'est-ce que tu jouais quoi comme poste?
Alors, je jouais milieu défensif, 6. C'est celui qui n'est pas toujours très talentueux, mais qui met de l'huile dans les rouages et qui est complémentaire aux autres.
T'étais un joueur, une sorte de joueur polyvalent.
Exactement.
Polyvalent, et puis il fallait faire une lecture du jeu pour... c'est exactement ça, le numéro 6.
C'est exactement ça, ouais. Voilà. Et combler les brèches, on va dire.
Combler là où il y a des trous, tu y allais, quoi, voilà. Tu vois. Il fallait avoir des jambes aussi, hein, et puis... Qu'est-ce que tu as retenu du foot pendant toutes ces années? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Le football, en fait, représente beaucoup de valeurs de la vie professionnelle. Le vivre ensemble, être là pour l'autre, travailler en équipe, pas se mettre en avant parce que seul on n'est rien.
Tu veux dire qu'un joueur ne se mette pas en avant? Que le joueur, qu'on ne lui mette pas la balle quasiment sur le coup de pied pour mettre dans le but, c'est ça que tu veux dire?
Ça, c'est mes valeurs en tous les cas.
Ça, c'est tes valeurs à toi.
C'est qu'il n'y a pas un joueur, il y a une équipe et tous joueurs sont un maillon de l'équipe.
Oui, mais même, regarde, quand tu penses maintenant aux grands joueurs comme Mbappé, regarde ce qu'il a fait au PSG, souvent les gens jouaient pour lui, pour qu'il mette les... Et moi, c'est ce que je retiens un peu, peut-être que t'es pas du même avis que moi.
J'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi envie de dire que ça a pas marché, et quand il est parti, ils sont devenus champions d'Europe.
Bah, exactement, et par des gens inconnus, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué 5 buts, on parle du même match, là où ils sont joués extraordinairement bien, et sans lui, quoi. Je pense qu'il a dû le regretter tout ça, il va le regretter toute sa vie, le Mbappé.
Je pense que ton exemple est très bon, hein, c'est-à-dire que Paris avait une politique de star.
De star, ouais.
Ils ont compris que ça ne marchait pas.
C'était le coach qui avait mis ça en place.
Le coach ou le président.
Ou le président, ouais.
Effectivement. Et aujourd'hui, ils ont compris que ça ne marchait pas. Ils ont pris des joueurs d'équipe avec des valeurs d'équipe et ça a payé tout de suite. Donc, est-ce que Paris serait devenu champion avec Mbappé? Personne ne le sait, personne ne le saura jamais, mais la question se pose, oui.
De la manière dont ils ont joué, on ne les a jamais vus jouer comme ça. Ils avaient l'impression qu'ils avaient... ils étaient véloces sur le terrain, ils avaient envie d'y aller, ils voulaient montrer. Moi, je me souviens de ce match, je l'ai regardé, j'ai adoré ce match, c'était magnifique. Même à la fin, il y a un garçon qu'on ne connaissait pas qui traverse le truc et qui met le 5e but, quoi. C'était juste fabuleux. T'as dû être heureux de voir ça, non?
Exactement, oui, parce que ça représente parfaitement les valeurs que je souhaite trouver dans le sport.
Ouais, c'est ça. Alors, je sais aussi que tu es fan de notre Racing. Tu es fan du Racing. Tu crois que t'as un abonnement. Tu y vas.
Oui, je suis fan de Racing depuis tout petit. Je suis abonné depuis 40 ans presque.
Waouh. Donc, tu loupes pas les matchs. Dès que tu peux, tu y vas, quoi.
Dès que je peux, j'y vais. Oui.
Et alors, c'est quoi aujourd'hui les misères qu'on fait à ce pauvre Marc Keller? C'est quoi les misères? Pourquoi on le montre du doigt comme ça, qu'on lui met des mauvais messages sur les réseaux? C'est quand même pas cool, quand même.
Oui, après, je pense qu'il faut comprendre tout le monde. Mais une chose est pas possible, c'est qu'on attaque les personnes. On peut ne pas être d'accord avec un chemin pris ou une décision prise, mais on n'a pas le droit d'attaquer les personnes, aussi bien le président que le capitaine. Voilà, après, les gens voient, à mon avis, le fait que le Racing prend les mêmes dispositions que lorsque McCormack était là et on connaît la fin. Voilà, mais aujourd'hui, je crois que Marc Keller, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a une stratégie. Et il faut lui faire confiance. Sans lui, le Racing ne serait pas où il est.
Ah non, mais absolument.
Et,
ouais. Tu parles de McCormack à l'époque où le Chilavert était dans les buts et il marquait des coups francs, tu te souviens de ça?
Par exemple, ouais, bon, on a gagné aussi une Coupe de la Ligue à
oui,
l'époque.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais on avait un problème, le club avait un problème de valeur et l'a payé. Aujourd'hui, je pense que le club a des valeurs et c'est ce qui va certainement lui permettre de s'en sortir. Et voilà, je crois que quand on est supporter, il faut vivre le moment
ouais,
présent.
Oui, c'est ça. Tu penses qu'ils feront une belle saison, toi qui as l'habitude du foot, avec les joueurs qui sont les nouveaux recrues, tout ça. Tu penses que la saison va être aussi belle que l'année, que ces saisons précédentes, et puis ils pourront peut-être jouer la Coupe d'Europe. Tu penses à ça ou pas?
Alors, j'ai envie de dire que l'équipe a des qualités, ouais. Des qualités techniques. Elle est jeune et je ne vais pas me mettre à dire « ça va être comme l'année dernière ». On ne sait pas et ce qui m'inquiète, c'est l'ambiance qu'il y a autour.
Tu veux dire le COP, tout ça, les gens qui sont pas très cool avec le club, quoi.
Voilà, et je pense que justement, quand on est supporter, on a le droit de ne pas être d'accord, mais pendant le match, on encourage, parce qu'on sait très bien, quand on est jeune, on est fragile, et quand la tête ne va pas, le foot ne va pas.
Oui, c'est ça.
Donc, il faut retrouver de la sérénité, faire confiance aux dirigeants, et on y arrivera.
Frédéric, on va quitter un peu ce monde du foot, on va se reposer un peu les oreilles, on va écouter une voix que tu aimes beaucoup de Florent Pagny, c'est une voix qui porte et rapporte. On va écouter un peu ça, Thomas, vas-y voir.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait, avec les interdits bancaires. Prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
C'est une belle chanson. Hein. Tu sais pourquoi il l'a écrite, cette chanson?
Alors, je ne savais pas, mais je l'ai appris ce matin.
Je te l'ai dit. Donc, parce voilà. Qu'il avait des problèmes avec le fisc. Et puis, il a donné tous ses meubles et tous ses beaux tableaux qu'il avait à Obispo pour les planquer. Et après, il est parti en Patagonie vivre là-bas avec sa famille, les chevaux. Et surtout, c'est un grand pêcheur à la mouche aussi. Il pêchait là-bas dans les grands lacs et les rivières. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de charmant, qui a aussi une belle ligne de vie. Là, il a eu un petit coup de moins bien avec une maladie, mais je crois qu'il s'en est sorti. Et c'est quelqu'un d'intéressant. Tu l'apprécies aussi, apparemment.
Alors, je l'apprécie aussi. Je l'apprécie, oui, pardon. Et j'ai choisi cette chanson-là et son interprète parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il était malade. Et ça doit être un exemple, puisqu'a priori, il a annoncé qu'il était en rémission.
En rémission, ouais.
Donc, ça doit être aussi un exemple pour les gens qui sont malades et une lueur d'espoir.
Oui, absolument.
Voilà, donc c'est important. Et puis, voilà, ses chansons ont toujours du sens.
Et puis, il a une voix incroyable, quoi. Il peut tout chanter, ce monsieur. Hein.
Ouais. Exactement. Ouais. Et j'ai regardé une émission l'autre jour où il disait, il racontait... sa première expérience de chant avec Pavarotti, où il s'est senti tout petit.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il était là, il a assuré, quoi. Il a assuré. Et l'autre jour, il était invité sur TF1 avec Gilles Bulot, qui a quasiment eu des larmes aux yeux quand il l'a interviewé, tellement tout ce qu'il disait avait un sens et puis c'était touchant, quoi. Tu vois. Alors, Frédéric, on va revenir un peu au lycée parce que tu es là aussi pour ça, hein, le lycée hôtelier d'Alexandre Dumas où tu travailles. Alors, dis-moi, c'est vraiment une grosse machine. Hein. Vous êtes combien là-bas d'élèves?
C'est un gros paquebot. On est entre 900 et 1000 élèves.
C'est énorme! Énorme!
Que de l'hôtellerie en plus, donc ça donne encore un peu plus d'ampleur à cet établissement-là. On a, enfin, quand je dis que de l'hôtellerie, c'est pas tout à fait juste, puisqu'on a une section tourisme d'environ 200 élèves.
D'accord. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans le tourisme? Ils apprennent à accueillir des gens, à proposer des voyages? C'est quoi le tourisme dans cette école?
Alors, c'est une formation très complète qui permet d'être guide, beaucoup bifurque aussi vers l'hôtellerie, puisqu'ils pratiquent trois langues. Et
ah
donc
oui.
en réception, okay. c'est des gens qui sont recherchés, des compétences qui sont recherchées.
C'est l'anglais, l'allemand.
Et après, ils ont le choix entre...
Et l'alsacien, peut-être.
Alors, l'alsacien, c'est la quatrième langue.
Rätschst du noch Elsässisch?
Ja, ich rede ein bisschen mit den Eltern.
Mit den Eltern? Mais en famille, non, rätschst nicht so mit den Kindern.
Que en famille. Alors, les enfants, non. Malheureusement, bah, oui. aujourd'hui, ils le regrettent.
Bah oui,
mais,
le mien aussi, il le regrette. Ouais,
j'encourage tout le monde à entretenir quand même
un peu l'alsacien. C'est vrai que c'est important. C'est pour ça que je parle toujours un tout petit peu avec la Muttersprache au début, tu vois.
Et alors, c'est comme Germain Müller, alors.
Ouais, j'ai le même nom, mais je suis... De Germain, ouais. Alors, tu me parles à l'instant, vous êtes autant d'élèves et vous êtes combien de profs là-bas pour enseigner?
Alors, on est 40 profs d'enseignement pratique et en tout, on est entre 100 et 120 personnels.
Ah, quand même, c'est important, ouais, c'est gros. Moi, ouais, c'est un gros paquebot, comme tu dis. Alors, moi, j'ai une question à te poser par rapport aux gens de salle, les cuisiniers, les pâtissiers, les bouchers, genre, enfin, tout ce que vous formez là-bas. Et moi, j'ai assez de copains, d'amis qui sont restaurateurs et qui me disent tous, André, j'ai dû fermer une salle au-dessus, là, parce que j'ai plus personne. J'ai plus personne en salle, j'ai personne en cuisine. Je pourrais accueillir tellement de monde. Par exemple, le gars de Célestin, que tu connais peut-être, les deux frangins, là, Nico et à la Vieille Forge, je crois, oui, c'est ça. Mmh. Et ils ont dû fermer un premier étage, parce qu'ils n'ont plus personne. Et je l'entends aussi dire par Pierre Veller, par Germain, un peu tous les cuisiniers me disent ça. Et alors, vous formez des gens, pourquoi alors, s'il n'y a plus de boulot?
Alors, on forme effectivement des cuisiniers, des pâtissiers, comme tu l'as dit, du CAP au BTS. Et en service, CAP et BTS, on forme aussi des pâtissiers, on forme des sommeliers, on forme des barman. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une offre d'emploi qui est très, très importante.
Donc, ils trouvent tout de suite du boulot dès qu'ils sortent du travail. Dès qu'ils ont leur diplôme, ils trouvent tout de suite du travail.
Ils trouvent tout de suite du travail. Mais aujourd'hui aussi, on sait que les jeunes aiment voyager. Donc, on forme des jeunes qui vont parfois aussi à l'étranger.
Ah, ça, c'est avec ce métier-là, en tant que cuisinier. Combien de cuisiniers alsaciens sont à l'étranger? J'en ai rencontré quelques-uns, hein, à l'autre bout du monde.
Voilà, je pense qu'effectivement, au départ, ça peut être, entre guillemets, une perte pour les entrepreneurs locaux, mais ils reviennent tous, beaucoup reviennent, avec une richesse et une autre manière d'appréhender aussi la profession. Et voilà, et ce cycle se répète. Et mais... effectivement, le manque de personnel est lié à beaucoup de facteurs.
Tu penses que le Covid a fait ça, a fait que les jeunes sont allés vers d'autres métiers, parce que c'est quand même un métier contraignant, hein. Tu as des horaires, tu as peut-être un petit salaire au début, et je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est ça qui change un peu l'esprit des jeunes qui vont dans cette voie?
Alors, le Covid a changé beaucoup de choses dans la société, hein, j'ai envie de dire. Et on est passé à une société qui privilégie le confort de vie, ou la qualité de vie plutôt que le confort, pardon. Et effectivement, ça a obligé les restaurateurs à changer les organisations. Aujourd'hui... Peu de personnes sont encore d'accord de travailler en coupure, donc on va travailler...
Mais elle existe encore, cette coupure? Elle est toujours là?
Elle existe encore, mais il va falloir, je pense, revoir ces organisations-là qui ont un coût. Et voilà, ce qui est induit, c'est que les prestations vont augmenter parce que les coûts de personnel vont augmenter.
Bah oui.
Si on veut garder le personnel.
Oui, mais tu vois, par exemple, moi je vais souvent à la pêche à la mouche en Allemagne, du côté de Bayersbronn, là dans les rivières, et je vois, tu peux manger à toute heure dans les restaurants là-bas. C'est open tout le temps. Tu peux manger à 16h, à 15h, à 14h, tu as le café Kuchen. Le personnel, il est géré différemment, je pense, et il n'y a pas de coupure chez eux.
Alors justement, c'est cette remise en question qui doit se faire. Je prends un exemple, le bâtiment avait un problème pour trouver des employés, il a su faire sa révolution et aujourd'hui, il s'est adapté aux besoins des employés. Et la restauration, j'en suis persuadé, le fera aussi. La difficulté, c'est que c'est souvent des petites structures et qui ont du mal à supporter une augmentation du coût du personnel. Mais ça va être un passage obligé si on veut garder l'attractivité du métier.
Oui, c'est sûr. Les choses ont aussi changé en cuisine. J'ai connu des chefs qui étaient des fois un peu agressifs, un peu méchants avec les Jones. Ça aussi, ça a changé, je crois. Hein. On ne balance plus des casseroles ou des trucs. Hein. J'exagère un peu, mais ça a existé aussi il y a quelques années, ça.
Oui, je parlais en début d'émission de charge mentale. Et effectivement, le service, c'est une charge mentale énorme pour un cuisinier. Et aujourd'hui, la technologie permet aussi de lisser ce coup de feu de par des cuissons différées.
Tu parles de la salamandre qui réchauffe un peu les plats, c'est ça que tu veux dire ?
Je parle de la cuisson basse température, de la cuisson sous vide qui permet d'anticiper et qui diminue le coup de feu et la charge mentale.
Donc il faut moins de personnel aussi peut-être, non ? En cuisine, quand tu parles un peu de ça ou pas, non ?
Alors, je ne veux pas dire qu'il faut moins de personnel, mais on peut mieux programmer le travail du cuisinier. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et peut-être c'est ça qui va permettre d'aller sur une journée continue plutôt que sur une journée en coupure.
Eh oui. Mais écoute, on va écouter une petite musiquette encore pour se reposer un petit peu les oreilles. Vas-y voir, mets-nous d'autres musiques si tu veux bien, mon ami. Ça, c'est une musique que tu aimes parce qu'il y a une belle valeur derrière.
Comme j'ai dit, on forme des citoyens et ça doit être notre credo de plus dans nos métiers. Enfin, cette chanson prend tout son sens dans nos métiers. Ouais. Et voilà, notre lycée implique aussi nos élèves dans des actions caritatives, puisque tous les ans, on a au moins une action pour une association, de manière à ce que nos élèves s'impliquent et on fait un don à une association que les élèves choisissent.
Ouais, vous êtes très généreux, je le sais. Et dis-moi, Frédéric, pour finir, vous avez formé des grands noms. Eric Westermann, Jice, le lycée hôtelier a formé beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui étoilés, meilleurs ouvriers de France. C'est une grande fierté pour le lycée, j'imagine.
Oui, c'est une grande fierté. On a formé des gens en cuisine qui sont meilleurs ouvriers de France au niveau du bar et du service en salle. On a également des anciens qui sont meilleurs ouvriers de France. J'insiste, mais c'est des valeurs, c'est une rigueur qu'on transmet. Mais c'est aussi ces personnes-là qui les ont mis en œuvre pour avoir une réussite personnelle. Nous, on a juste donné les outils.
Ben c'est parfait. Mais écoute, je te remercie en tout cas d'être venu jusqu'à chez nous. Écoute, passe encore une belle fin d'année dans le lycée. Et puis à très bientôt pour une autre émission. Et merci d'être venu.
Merci pour ton accueil et à très bientôt.
Merci.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous